Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Je voudrais dédicacer cette première émission de l'année à mon petit-fils Milan qui fête ses 10 ans au moment où nous enregistrons. Nous avons choisi des nouvelles de trois auteurs qui ne sont pas des inconnus pour vous. Si vous nous écoutez régulièrement, commençons par Gérard Streff. Nous avions déjà évoqué son livre sur le couple Manouchian aux éditions de l'Archipel, sorti en 2024. Je voudrais également vous conseiller la lecture de sa série « Les enquêtes de Chloé Bourjade », une journaliste doublée d'une détective privée. À ce jour, 7 volumes sont parus aux éditions La Déviation. Mais aujourd'hui, c'est la lecture de sa nouvelle « Le faux » de James Dixon que nous vous proposons.
Dixon était aux anges. James Dixon, l'auteur britannique de Polar, avait obtenu le droit de visiter la morgue parisienne. Le bonhomme commençait à être connu en France. C'est lui qui avait décidé d'écrire les nouvelles aventures de Sherlock Holmes. Sa nouvelle série marchait pas mal. Il se pointa donc ce mardi en début d'après-midi à l'Institut médico-légal quai de la Râpée. Geneviève Dirlac, la directrice, l'accueillit. Elle était surprise de le voir seul. Dixon ne parlait pas français et à l'Institut ce jour-là, il n'y avait pas un seul anglophone. Et Dirlac elle-même avait oublié ses rudiments depuis longtemps.
« You alone tout seul ?»«
Alone, yes. »
Ils se sourirent, hochèrent ensemble la tête. Dirlac n'était pas bégueule et l'anglais n'avait pas l'air trop compliqué. Ils devaient pouvoir s'entendre si chacun y mettait du sien. On allait se débrouiller avec les moyens du bord.
Dirlac réalisa qu'elle pouvait tout de suite lui proposer un cadavre de toute beauté. Ouais, un type qu'on avait retrouvé le matin même au jardin des plantes, à deux pas donc, assis sur un banc et décapité. Proprement décapité.
Enfin, proprement, c'était façon de parler. Le costard du personnage sans tête était inondé de sang. Mais le cou, lui, était sectionné net. Pas de bavure, pas de bout de chair qui pendait, pas de morceaux d'os éparpillés. Du beau travail. Le décapité avait dû passer la nuit assis. Le cadavre en avait gardé la position. Pourquoi personne ne l'avait vu ? Mystère. Il n'avait pas encore été déshabillé. Encore moins examiné. Dixon regarda le corps, fasciné.
Interesting.
Yes, very. L'anglais était penché sur le cou. Il eut comme une révélation.
Oh, sit.
Dirlac opina perplexe.
Hey, sit.
Il disait quoi, le British ? La directrice se sentait démunie.
Sit. Sit.
On sentait qu'il cherchait désespérément des repères. Il saisit un feutre, sortit un carnet, esquissa un marteau et une faucille, montrant de sa plume ce dernier instrument.
« Sit !» Dirlac était paumé. Un marteau, une faucille. C'était quoi le message ? Ah, il pensait que c'était un coup des cocos.
« No, no, no reds, no politics !»
L'anglais sentait qu'on s'égarait quand il repéra un ordinateur. « Oh, Internet ?»«
Yes, Internet, of course !» d'Irlac trouvait qu'elle s'améliorait en peu de temps. Le type pianota quelques mots. Elle comprit qu'il cherchait un dictionnaire franco-anglais.
Youhou!
Yes?
Faux!
Faux?
Le faux!
Le faux! What? Le faux?
Le faux! You know!
Il mima le geste du faucheur.
Le faux! Le faux!
La suite de l'enquête devait lui donner raison. Le célèbre tueur à la faux avait encore frappé.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Avant la lecture de la nouvelle « On passe toute sa vie à essayer de ne pas rater sa vie » d'Arnaud Dudek, nous voulons vous signaler son dernier roman « Un printemps en moins » aux éditions Avril. Son thème, le harcèlement scolaire, qui conduit un adolescent plongé dans le coma à l'hôpital. Ce texte sera accompagné par la trompette de Lee Morgan dans « God bless the child ». C'est mardi. Il est un peu plus de 10 heures et soudain, les téléphones sonnent. La nouvelle tombe et elle n'est pas bonne. Gorge sèche, poitrine douloureuse, nous nous disons que c'est normal et il fallait s'y attendre, 91 ans tout de même. Nous nous disons, ah, c'est dans l'ordre des choses. On ne meurt pas avant ses parents, encore moins avant ses grands-parents. Oui, c'est dans l'ordre des choses.
Nous martelons aussi la phrase suivante. Elle a bien vécu. Ce qui signifie quoi exactement? À partir de quand entre-t-on dans la catégorie des gens qui ont bien vécu et qui peuvent légitimement mourir? Faut-il être propriétaire de sa maison? Doit-on compter plusieurs arrière-petits-enfants? Faut-il avoir visité Venise? Tous ces mots sonnent faux. Tous ces mots rassurent, alors nous les répétons. L'âge, c'est normal, l'ordre, il fallait s'y attendre. Cela tourne en boucle. Au fond, on ne s'y attendait pas.
Les jours qui suivent, des vaguelettes de souvenirs viennent caresser nos chevilles. Nous ahenons sur ses genoux les aventures des neveux de Donald. Et nous ôtions, clac, d'un coup sec, les extrémités d'une demi-tonne de haricots verts. Allez, mamie, on fait la course. Et nous la regardions sucer pendant des heures le même bonbon à la menthe. Et nous mangeons son lapin aux pruneaux en fronçant les sourcils. Et le grand-père, hein, le grand-père. Bien sûr, nous y pensons aussi, même sous le vent à peine connu. Il ne faisait rien sans l'autre, paraît-il, mais nous nous demandons comment elle a pu survivre à lui aussi longtemps. Nous nous demandons aussi comment ça va être la vie sans elle.
C'est vendredi. Nous nous rassemblons chez elle juste après l'enterrement. Nous mâchons une tranche de brioche, trempons des sachets de thé Earl Grey dans de l'eau tiède. Nous laissons des miettes sur le tapis, nous nous surprenons en train de penser « Elle va pas être contente ». Et puis, la génération qui nous précède prend la parole. Nous annonce qu'il faudra bientôt vider l'appartement et qu'il est forcément difficile de trier une vie entière. Nous explique qu'il faudra faire des choix parfois douloureux et que ceux qu'ils feront ne seront pas forcément partagés par tous. Aussi, voilà ce qu'il nous propose. Avant que tout s'en aille, il nous invite à nous servir. Prenez un objet, nous disent-ils. Choisissez un bibelot, quelque chose qui vous fait penser à elle. Ramenez un bout d'elle chez vous.
Un petit cadre à photo dorée, un couple de quinquagénaires endimanchés. Une canne de marche en bois, souvenir du Mont d'Or. Ou un apron, fait main, point mousse ou point de croix, nous on n'y connaît rien. Ah, l'œuf en bois qui servait à repriser les talons des chaussettes. Et juste à côté, sur la grande table du salon, l'unique bien précieux de la pièce, un vase galé d'une vingtaine de centimètres. Décor, fleurs mauves sur fond jaune, et signe particulier légèrement ébréché en haut du col, ce qui en fait baisser significativement sa valeur. Ben, on se bat pas pour l'œuf en bois. On se bat davantage pour le vase qui échoue dans les bras de l'aîné des cousins à l'issue d'une partie acharnée de pierres, feuilles, ciseaux.
Dans une valise en carton, nous trouvons un vieil album photo. Des mariages, des anniversaires ? Non, des fleurs, juste des fleurs. Des massifs de forsythia, des rhododendrons, des rosiers, des tulipes. Pas un seul visage. Au fond d'un cendrier, un autocollant minuscule. Jaffa PLU 4450. Nous nous creusons la tête. Ah, et puis, bien sûr, le sticker d'une clémentine.
Dans le tiroir du secrétaire, cet agenda banque postale. Chaque jour, elle consignait humeur et température. 11 degrés, soleil, crampe. 3 degrés, gris-gris, oh, pas bon pour le moral. 26, les petits sont là. Ah, quel bonheur! La curiosité nous pousse cependant vers le dernier carnet, vers l'ultime page, vers la dernière ligne. 14, très fatiguée. Elle sent le « j'ai perdu l'appétit d'exister », cette dernière ligne. Ouais, on passe toute sa vie à essayer de ne pas rater sa vie, et puis un jour ça bascule, on capitule. Brusquement, on en a assez de vivre.
Six mois plus tard, un repas de famille, un anniversaire qui se termine par le chiffre zéro. Ça crie sur les petits qui se chamaillent, ça vante les qualités d'un sancerre, ça parle la bouche pleine de visites de maison ou de patients hypochondriaques. Elle m'a fait une crise d'angoisse dans la salle d'attente à cause d'un bouton de fièvre. Je sais pas si dans nos régions ça vaut le coup, les piscines. Ah, et on saute pas sur le canapé avec ses chaussures.
Après le repas, vient le temps de la balade digestive, jusqu'au parc, jusqu'au toboggan. Nous nous sentons lourds, ballonnés. Ah, c'est interminable ces déjeuners du dimanche. Polo pot à 15h, dessert à 17h. Ah, heureusement que c'est pas comme ça toutes les semaines. Près des toboggans, tandis que le soleil se cache, eh bien, nous regrettons d'avoir laissé notre écharpe sur le canapé du salon.
Soudain, quelqu'un lance cette phrase. Riche idée, hein, le cambriolage des bibelots de mamie. Nous acquiesçons. Tandis que les petits enchaînent un peu vite les descentes de toboggan, nous nous interrogeons sur nos choix. Pourquoi les aiguilles à tricoter? Pourquoi le cendrier? Pourquoi le tire-bouchon du grand-père? Et le vase galet? Glissons-nous un brin envieux à l'aîné des cousins. A-t-il trouvé sa place dans le salon?
Eh bien, puisqu'on en parle, répond ce dernier, il faut que vous sachiez. Mon ami Jacques, commissaire-priseur, est venu dîner à la maison l'autre soir. Et il s'y connaît en galet. Figurez-vous que c'est un faux. C'est un faux.
C'est un faux?
C'est un faux.
Quatre mots qui forment la phrase la plus étrange et la plus brumeuse qui soit jamais remontée à notre cerveau. Un faux? Non, c'est pas concevable. Elle y tenait tellement à son galet. Son bien le plus précieux, même si, ébréché, il avait perdu beaucoup de sa valeur. Mais d'où venait-il d'ailleurs? La question déclenche de vagues haussements d'épaules.
Cadeau?
Héritage?
Non, trésor de guerre!
Nous échafaudons quelques hypothèses. Nous nous demandons également si, là où la grand-mère se trouve, il se pourrait qu'elle apprenne la nouvelle. Et comment elle réagirait? À moins qu'elle l'ait toujours su. Nous restons un moment immobiles, mains au fond des poches. Le son du vent s'enroule autour de nous. Et puis, un cri d'enfant, un hurrah, vient briser ce souffle. Le jeu du toboggan a sans doute livré son vainqueur. Allez, il est temps de rentrer. Thank you.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Et pour terminer cette émission, nous allons vous lire Manu. Une nouvelle de Jean-Claude Épice, qui, depuis qu'il est devenu Vosgien d'adoption, participe activement à la vie littéraire de Senone, en y animant un atelier d'écriture et en participant à l'organisation du festival littéraire qui se déroule en septembre, où nous avions été d'ailleurs accueillis très chaleureusement l'an passé.
Manu, de son vrai prénom, Emmanuel. Mais tout le monde l'appelait Manu. Entreprise Manu, service en tout genre, qu'il disait. Bien sûr, il n'a jamais eu d'entreprise, mais c'était sa façon de se présenter. Ouais, sympa le Manu, simple et sympa. Il est vrai que la vie n'avait pas été très tendre avec lui. Il n'avait que 10 ans quand sa mère mourut dans d'atroces souffrances. Un cancer généralisé, comme on disait à l'époque. Et Manu, qui allait la voir à l'hôpital tous les jours, l'entendait se plaindre à longueur de visite. Les médecins compatissaient, soulageaient du mieux qu'ils pouvaient, mais n'abrégeaient pas la douleur. Et Manu, toute sa vie, a gardé en mémoire les cris de sa mère.
Donc, service en tout genre. Et c'est vrai qu'il était doué manuellement, le Manu. Il maîtrisait tous les corps de métier. Élec, placo, peinture, plomberie. Manu, tu pourrais venir me donner un coup de main ? Entreprise Manu, service en tout genre, j'arrive. T'avais besoin de repeindre la maison ? Manu était là. De garder les animaux de la ferme quand tu décidais de partir un week-end. Manu s'occupait des vaches, du cheval. Une coupure de courant, Manu déboulait avec sa caisse à outils. Et tout ça, gratuitement, ou presque.
Il travaillait à mi-temps à la maison de retraite de la ville voisine. Comme ouvrier d'entretien, bien sûr. Un job qui lui assurait une couverture sociale et un petit salaire fixe. Manu n'avait pas de gros besoins. Il était plutôt autosuffisant. Il avait une petite exploitation agricole, quelques vaches pour le lait, il faisait son beurre, ses yaourts, des poules pour les œufs, quelques hectares pour le fourrage, un verger, un potager lui assurant fruits et légumes qui distribuait d'ailleurs à son entourage gratuitement ou presque. Un peu de chasse aussi, du sanglier pour ses terrines, ses pâtés et la cueillette des champignons. Bah, il y avait bien une femme qui avait partagé sa vie, mais comme il passait plus de temps à bricoler qu'avec elle, bah, il comprenait très bien qu'elle se soit tirée au bout de quelques mois.
Donc, une vie simple, heureuse, bien remplie. Le foot à la télé, le tiercé et son entreprise de services en tout genre. Un matin, alors qu'il réparait un radiateur dans le couloir de la maison de retraite, il entendit une petite voix l'appeler. Il se retourna et comprit que ça venait de la chambre de Madame Mercier, son ancien instit. Il frappa doucement et entra.
« Bonjour, madame. Comment allez-vous ce matin ?»«
Entre, Manu. Viens près de moi. »
Il s'approcha du lit médicalisé.
« Ça fait combien de temps qu'on se connaît, Manu ?»«
Oh, depuis le primaire. Donc ça doit faire une bonne 50aine d'années, madame. »
Elle grimaça en le regardant.
Ça va, madame ? Vous voulez que j'appelle l'infirmière ?
Non, Manu. J'ai un petit service à te demander.
Ah, tout ce que vous voulez, madame. Entreprise Manu, service en tout genre.
Je sais, Manu. C'est pour ça que je fais appel à toi. J'en peux plus. Je souffre terriblement. Je suis obligée de rester allongée toute la journée. Et même dans cette position, j'ai affreusement mal. Je suis au bout du rouleau. Il faut m'aider à en finir. Les médecins me bourrent de morphine, m'éteignent lentement. Mais c'est trop douloureux. J'en peux plus. Il n'y a qu'à toi que je peux demander ça. Trouve une solution. Ça soulagera tout le monde. Moi, en premier.
Manu repensa à sa maman. La revit et ses cris de douleur lui revinrent en mémoire. Le lendemain, on lui annonça ce qu'il savait déjà. Madame Mercier, son ancienne institutrice, était décédée dans son sommeil.
Quelques jours après, lors des funérailles, il entendit la famille, les proches, dire qu'elle avait fini de souffrir, que c'était un soulagement pour elle, pour tous. Quelque temps après, c'est Roger, l'ancien cantonnier du village, qui le demanda. Manu et lui se connaissaient depuis toujours. La chasse, le bistrot, le PMU, étaient des activités communes. Quand Manu entra dans la chambre, il trouva un Roger mal en point.
Je sais que l'Institut a demandé un petit service. Elle m'en avait parlé. Regarde-moi, Manu, je ne ressemble plus à rien. Je suis une loque, un déchet. Occupe-toi de moi, fais-moi plaisir.
3 jours plus tard, tout le village était réuni pour rendre un dernier hommage à celui qui avait pris soin de la ville, de ses rues et de ses espaces verts.
À 67 ans, Manu partit en retraite. Lors du pot de départ, organisé par la maison de retraite, le directeur loua l'engagement professionnel de Manu, sa disponibilité, son sens du devoir, sa bienveillance et son humanité si appréciée par les résidents. Mais il est vrai que pendant les 10 dernières années de sa carrière professionnelle, il avait soulagé discrètement 14 fois. Sans regret ni cas de conscience, il avait fait au mieux, pour abréger les souffrances et soulager les familles. Il savait bien qu'il ne respectait pas l'ordre des choses de la vie, qu'il ne serait jamais panthéonisé pour un service rendu à la nation. Mais il s'en foutait. Il était tranquille avec lui-même et ça lui suffisait bien.
À 88 ans, devant sa perte d'autonomie, et comme il devenait dangereux pour lui-même, je décidai de le placer à son tour en maison de retraite. Quelques années plus tard, son état s'aggravant, il me fit demander.
« Salut, parrain. Comment vas-tu aujourd'hui ?»
Il ne me dit rien de son état de santé, mais me raconta les services rendus. J'étais effaré.
Écoute, je souhaiterais que tu me rendes la vie moins dure à supporter, alors. Fais pour le mieux.
3 jours plus tard, je déposais une plaque sur sa tombe. Entreprise Manu, service en tout genre. Thank you.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Vous venez d'entendre Desert Town de Michel Portal, extrait de son CD MP85. Mes camarades, Evelyne, Olivier, absent aujourd'hui, et moi-même, John Bullitt, nous vous souhaitons une très bonne année 2025. Nous espérons que vous allez prendre du plaisir à nous écouter sur la radio RCN, que ce soit lors de la diffusion de nos émissions en direct ou bien en podcast sur le site de RCN. Alors, au revoir les amis.
Au revoir. Ha, 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 ha.